Merci d'être là et d'être arrivé en avance. On n'a pas l'habitude de commencer à 9h25, voilà, donc c'est le timing imposé par nos organisateurs. Donc c'est bien la première fois à l'Espace Modeste France, on commence à 9h25. Mais comme il y a le quart d'heure Poitevin, en général, on commence à 9h15. Donc merci à tous d'être là, les personnes d'association André Léo, et puis aussi nos auditeurs habituels, et puis les étudiants qui sont venus aussi écouter nos amis. Donc moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur André Léo, étant donné que je ne la connais pas bien. Ça va être l'occasion d'écouter tout ce que vous avez à nous dire. Mais je suis très contente, comme d'habitude, je parle au nom de notre directeur, du partenariat que nous avons avec l'UFR SHA, et en particulier aussi avec Frédéric Chauveau et les différents labos pour organiser ces journées. On passe avec Frédéric, l'éventail est tellement large qu'on passe à des thématiques complètement différentes chaque année. Alors, j'ai déjà demandé ce qu'il me préparait l'année prochaine. Il m'a dit on fera peut-être une petite pause, on verra bien. Mais on est toujours prêts à travailler avec plaisir avec Frédéric. Et voilà, donc je vous remercie tous d'être là. Je vais simplement dire qu'à la pause, la porte est fermée et que pendant le déjeuner, la porte est fermée, donc vous pouvez laisser vos affaires. Et donc je vous remercie tous de votre confiance. Je ne pensais pas, en arrivant à l'Espace Modeste France il y a quelques années, qu'on organiserait une journée d'études sur ce personnage si intéressant. Et puis on voit que André Léo a eu plusieurs vies, donc on va voir quelle vie elle a eue. Et donc il y a un article dans l'actualité dont parlera Frédéric, donc j'en distribuerai aux personnes ici présentes, et notre rédacteur en chef Jean-Luc Terradios est là aussi pour écouter cette journée. Donc merci à tous et puis passez un bon moment à l'Espace Modeste France et à tout à l'heure. Frédéric.
Merci Anne. Alors en guise d'introduction, donc quelques mots, ce sera une introduction si je peux dire à deux voix. Je me contenterai de faire une présentation donc un petit peu générale de la manifestation, et puis ensuite mon voisin qui est président de l'association, donc André Léo, fera donc une sorte de présentation, un portrait un petit peu plus rapide d'André Léo. Alors quelques mots, peut-être une remarque un petit peu plus personnelle. Lorsque j'ai entendu parler d'André Léo quasiment pour la première fois, c'était dans le cadre d'une société savante reconnue d'utilité publique en 1933 qui s'appelle la Société d'histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du 19e siècle. Donc là, on voit bien qu'on est avec des spécialistes du 19e siècle parce que c'est toujours des titres un petit peu donc à rallonge. Pourquoi faire court quand on peut faire long? C'était un petit peu, si je peux dire, la philosophie. Et à ce moment-là, il y avait donc un historien que vous connaissez peut-être qui s'appelait donc Alain Dalhotel, qui était plutôt un spécialiste de la commune de Paris, qui nous avait fait passer donc un petit texte. Et dans ce document, il s'agissait de rénover la pierre tombale d'André Léo. Alors, dans l'assistance, il y avait notamment Maurice Agulon et puis un certain nombre d'autres historiens. Alors, certains donc opinaient du chef, faisant semblant de savoir qui était donc André Léo. D'autres savaient, comme Maurice Agulon, qui était effectivement donc André Léo. Et à ce moment-là, ça a nécessité donc une explication, non pas de texte, mais une mise à jour des connaissances pour savoir qui exactement était donc André Léo. Alors, Alain Dalhotel, petite parenthèse, a écrit, donc c'est le biographe reconnu d'André Léo, a écrit donc un ouvrage qui s'appelle « La Junon de la Commune ». Et si vous ne savez pas quoi faire, en perspective de la prochaine césure quasiment estivale, puisque les vacances s'annoncent à l'horizon du week-end prochain, ben, n'hésitez pas, hein, plutôt que d'être gagné comme ça par l'ennui irrépressible, lisez Alain Dalhotel, c'est absolument passionnant. Alors, André Léo a aussi donc bien sûr bénéficié de travaux d'historiens et d'historiennes. Alors évidemment, je ne peux pas les citer tous ou les citer toutes parce que je risquerais de m'en oublier. Puis à ce moment-là, ça pourrait vexer les uns ou les autres. Mais il faudrait peut-être rendre hommage à Fernanda Casteldello qui est ici présente, qui a été donc pionnière dans ce domaine-là, qui avait fait une thèse sur André Léo, sur son itinéraire, sur sa trajectoire. C'est la première thèse. Et une version de la thèse, enfin un exemplaire, parce que c'est vraiment un collector, il n'y en a pas beaucoup, un exemplaire de la thèse figure dans la bibliothèque du Jéricho Cyrilim, qui s'appelle maintenant donc le CRIAM. Donc là aussi, si vous ne savez pas quoi faire, pas pendant les vacances, mais donc dès la rentrée prochaine, n'hésitez pas donc à les consulter. C'est vraiment donc un travail qui est très important, et c'est un travail donc à la fois pionnier qui défriche et qui contient aussi une bibliographie donc tout à fait significative. Alors, André Léo, c'est donc une femme d'exception et qui bénéficie finalement depuis peu d'un certain regain, d'un certain engouement. Il y a une curiosité autour un petit peu donc d'André Léo. Alors j'espère que ça va prendre et puis qu'on pourra réhabiliter de façon plus importante André Léo, figure évidemment importante, mais pour la commune de Paris qui est aussi importante sans doute que Louise Michel. Alors il y avait un ouvrage déjà plus ancien qui l'avait fait reconnaître un petit peu, qui s'appelait donc La femme et les mœurs. Et La femme et les mœurs, c'est un essai d'André Léo. Et c'est un essai qui est un essai donc un petit peu polémique à ce moment-là. Bon, elle discute avec, si je peux dire, les partisans de son époque, et notamment donc avec Proudhon. Alors Proudhon, évidemment, était le chef de file de ce qu'on appelle communément, par facilité, les socialistes utopiques. Mais André Léo, Proudhon était aussi donc quelqu'un qui était bon, manifestement un antiféministe, puisque vous savez que Proudhon donc avait inventé la théorie des germes. Et Proudhon disait que les femmes ne peuvent pas avoir de muscles et ne peuvent pas avoir d'intelligence parce qu'elles ne produisent pas de germes. Et donc, en fait, parfois, elles ont de la force physique, mais c'est des illusions. De même, en ce qui concerne l'intelligence, la preuve, c'est que sur les 125 000 brevets d'invention déposés, les femmes en avaient déposé tout au plus une trentaine. Voilà. Donc, évidemment, elle combat très vivement, donc, si je peux dire, ce genre d'idées. Et donc là, c'est un livre, évidemment, qui n'est pas toujours facile d'accès parce que, bon, il est épuisé, mais on peut encore en trouver quelques exemplaires, La femme et les mœurs. Et donc, au point de vue donc, de l'histoire politique et de l'histoire des idées, c'est un livre de toute première force. Et puis, deuxième livre, alors il y en a d'autres bien sûr, mais je ne vous les présente pas tous, c'est La guerre sociale, qui est en fait une brochure, une réflexion, qui a été donc une conférence d'André Léo prononcée donc, après la Commune sur la guerre sociale et qui fait tout à fait donc, écho avec des publications donc, plus récentes sur l'indignation devenue un véritable best-seller. Donc ça s'appelle donc, la guerre sociale et c'est une perspective tout à fait intéressante. Et là, c'était Michel Perrault qui avait accepté donc, de faire l'introduction. Alors, c'était un petit éditeur, hein, alors, je n'ai pas de pourcentage, simplement, donc il y a une confusion, si je peux dire, dans les échanges de courrier. Ils m'ont envoyé une dizaine d'exemplaires. Donc si vous ne savez pas quoi acheter tout à l'heure, j'en ai pris un certain nombre dans mon cartable. Donc n'hésitez pas, c'est un prix tout à fait modique. Hein, je crois que c'est 7 €. Alors, voilà, donc si vous ne savez pas quoi, j'en ai 10 à ma disposition. Hein, donc plutôt que de... Voilà, bon, voilà. Donc voilà. Alors, et puis évidemment, donc, l'association André Léo a publié un certain nombre d'ouvrages, de romans d'André Léo, et puis continue. Hein, c'est un travail un petit peu de longue haleine avec des publications qui correspondent aux exigences scientifiques en la matière, puisque vous avez des notes, vous avez un appareil critique, vous avez confrontation parfois quand il existe plusieurs éditions du même ouvrage. Alors évidemment, celui qui a fait sans doute un impact sans doute plus important, c'est le roman qui s'appelait Le mariage scandaleux, bon, qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises, mais c'est sans doute peut-être le roman qui l'a lancé et celui qui est peut-être le plus connu encore aujourd'hui, peut-être du grand public, voire même à l'extérieur. Alors depuis, il y en a bien sûr d'autres avec des ouvrages tout à fait passionnants, donc n'hésitez pas là aussi, hein, pour compléter votre bibliographie et puis votre bibliothèque, donc plongez-vous dans les œuvres d'André Léo. Alors, la manifestation donc, d'aujourd'hui, c'est la deuxième étape. Nous avions donc avec l'association donc, André Léo et puis l'Université de Poitiers, plus exactement donc, le département d'histoire et puis le laboratoire CRIAM, déjà organisé donc, l'année dernière une manifestation qui s'appelait donc, André Léo dans son siècle. Et la manifestation de l'année dernière, c'était comme visée une sorte de présentation donc, un petit peu panoramique. Et pour paraphraser, si je peux dire, des débats tout à fait récents, on pourrait dire que si vous avez aimé donc, la journée d'études André Léo dans son siècle, vous allez sans doute adorer celle d'aujourd'hui, donc les vies d'André Léo. Bien. Alors, simplement, donc, les André Léo dans son siècle, il s'agissait de... Comme c'est un personnage, si je puis dire, qui a plusieurs facettes, on s'était intéressé à la fois donc, à la place des femmes dans la société française au XIXe siècle. On s'était intéressé aussi donc, à la société rurale, aux questions donc, politiques, à la place de la commune, des idées socialistes. Bien. Et donc là, aujourd'hui, vous aurez, donc, si je puis dire, un changement un petit peu donc, de focale. L'éclairage portera véritablement donc, sur la trajectoire, l'itinéraire, les vies multiples d'André Léo. Et vous avez donc la chance d'avoir véritablement donc, les spécialistes d'André Léo. Voilà. Il y a une véritable convergence, c'est pas si facile, je crois que c'est la première fois où tous ces auteurs et ces spécialistes se retrouvent, donc c'est une grande première. Hein. Donc, comme ça, dans 30 ans, je parle aux étudiants, vous pourrez dire oui, j'y étais, je m'en souviens, c'était à l'espace Mendès France. Voilà. Bien. Alors ça c'était... voilà. Et puis, alors... André Léo a aussi donc bénéficié d'une couverture aussi donc pour cette manifestation. Alors d'une part, le petit programme que vous avez vu, alors il en existe un petit peu deux versions, parce qu'il y a une version qui a été un petit peu réactualisée. Enfin bon, là vous avez... Et puis aussi, dans l'actualité Poitou-Charentes, alors c'est une revue que vous connaissez, hein, c'est une très bonne revue. Alors je me permets de le dire, hein, je n'ai pas d'action, je ne touche pas de pourcentage, hein, chaque fois je le dis, donc je peux en profiter. Alors quand on la présente par exemple à des collègues d'autres universités ou qui sont dans d'autres régions, ben, ils trouvent effectivement que c'est une revue qui est absolument remarquable. Enfin, c'est... Et là, vous avez donc un article qui est consacré donc, à André Léo, journaliste féministe de la Commune. Et puis, donc, l'auteur de l'article, c'était une étudiante de Poitiers, hein, qui s'appelle donc Charlotte Cosset, et qui n'a pas pu participer pour cette manifestation-là. Mais le troisième volet qu'on fera donc, l'année prochaine, sans doute à Lusignan, mais bon, on n'a pas encore tout à fait donc, arrêté les dates et le lieu. Elle nous fera donc une communication, ce qui montre que donc on peut être étudiante et puis aussi donc se lancer pas simplement dans les carrières d'enseignement, mais avoir aussi d'autres perspectives. Donc je vous conseille très vivement de lire cet article, hein, qui est très bien fait. Donc là aussi, ce soir, comme ça, quand il y aura le blues d'après la journée d'études, en disant bon, alors à ce moment-là, on est aussi guetté par une nouvelle phase d'ennui, bah, lisez cet article qui est très bien fait. Et puis c'est Jean-Luc Terradillos aussi qui a, si je peux dire, été un petit peu le personnage référent, si je peux dire, qui a accompagné donc Charlotte Cosset pour la publication de cet article-là. Alors, je me rends compte que déjà j'étais trop bavard, donc je cède tout de suite la parole à mon voisin, donc pour 5 minutes, pour une présentation donc plus précise d'André Léo.
Merci, quel talent. Bon, André Léo, qui est-elle? Donc, de nombreuses personnes présentes aujourd'hui connaissent déjà André Léo, mais pour bien suivre les exposés qui vont se multiplier, toutes ses facettes, il est bon de rappeler en 5 minutes les grandes étapes de sa trajectoire assez complexe. Elle est née Léodile Béra en 1824 à Lusignan, d'une famille de notables poitevins. Cette famille Béra était constituée soit de notaires, soit d'avocats, formée exclusivement par des études de droit. Le grand-père de Léodile, Joseph Charles, avait été un héros de la Révolution en 1789. Son père, Louis Zéphirin, ne déroge pas à la règle. Il est notaire à Lusignan à la naissance de Léodile, mais en 1830, il s'installe à Champagné-Saint-Hilaire avec son épouse Thalie Bellotto, pour être juge de paix à Jancé. Léodile, en ce lieu paisible, a une éducation d'un bon niveau, empreinte d'idées humanistes, ceci dans un milieu franc-maçon dont elle n'adoptera pourtant jamais les rites. Elle quitte Champagné-Saint-Hilaire en 1851, sous la Deuxième République, pour rejoindre Grégoire Chancé, journaliste qu'elle avait rencontré suite aux échauffourées provoquées par les porcelainiers de Limoges et qui avait été contraint à l'exil du fait de son engagement à leur côté. Grégoire Chancé était un adepte de la communauté du philosophe Pierre Leroux et ami de Georges Sand. Elle rejoint donc Grégoire dans son exil en Suisse pour leur mariage en décembre 1851 à Lausanne. De cette union vont naître en 1853 deux jumeaux, André et Léo. Et c'est sous ce nom d'écrivaine André Léo que justement elle publie en 1859 son premier roman, une vieille fille. Sous le Second Empire de Napoléon III, l'amnistie de 1860 permettra au couple et à leurs deux enfants de rejoindre Paris. Ils s'installent au quartier des Batignolles en 1862. Elle publie Un mariage scandaleux, un roman dont l'intrigue se déroule à Champagné-Saint-Hilaire, et où nous voyons poindre son engagement pour le droit des femmes. Mais la santé de son mari se dégrade rapidement et Grégoire Chancé décède en 1863 à l'âge de 46 ans. Elle écrit plusieurs romans, dont Un divorce, Aline Ali, que l'Association des publications chuvénoises vient de rééditer et qui a été préfacé et postfacé par Cecilia Beach, Alice Primi et Caroline Granier, qui sont ici présents. Ensuite, les deux filles de M. Plichon. En 1868, elle rencontre Benoît Malon, qui est un militant ouvrier et dirigeant de l'Internationale, dont elle devient la compagne. Elle a 44 ans et lui 27. Elle rencontre aussi en 1868 Louise Michel, Noémie Reclus, Maria de Rheim et Madame Jules Simon, avec qui elle fonde la Société de revendication du droit des femmes. La guerre en 1870 de Napoléon III contre la Prusse conduit à la capitulation, à l'avènement de la Troisième République et au siège de Paris. La révolte de la Commune de Paris offre à André Léo un rôle d'animatrice et une extraordinaire tribune. Elle est à la fois ambulancière, militante et journaliste. Elle rédige l'appel aux travailleurs des campagnes et prône l'éducation pour les jeunes filles. L'échec de la commune l'oblige à se cacher dans Paris, puis à s'exiler en 1871, d'abord à Bâle. Elle continue le combat et l'écriture en Suisse et en Italie, puis en compagnie de ses enfants et de Benoît Malon, avec qui elle vit depuis 1872, elle revient à Lugano. Elle reprend son activité de journaliste et de romancière. Elle fait publier au moins 6 feuilletons dans les journaux parisiens. En 1878, elle quitte Benoît Malon, un peu trop volage, et rejoint son fils André à Florence. Elle est très affectée par la mort de sa mère à Champagné en 1878. En 1880, c'est le retour d'André Léo en France, à Paris, après l'amnistie. Léo Chancet, son fils, était devenu ingénieur civil, il participera à la construction du tunnel du Saint-Gothard, et son jumeau André, professeur de chimie agricole en Italie. Il épousera Laure Malézieux, mais n'eurent pas de descendance. André Léo séjourna à Formia, au nord de Naples, de 1882 à 1883. Léo mourut à 32 ans en 1885, André mourut à 40 ans en 1893. Nous retrouvons la présence d'André Léo à Poitiers en 1890, 1891 et 1893 lors de la publication de livres. Ensuite, elle séjourne à Saint-Mandé, puis à Villeneuve-la-Garenne, où elle continue d'écrire. En tout, au moins 24 livres. Elle décède en 1900 à l'âge de 76 ans. Elle sera enterrée avec Grégoire Chancet et ses deux fils au cimetière d'Auteuil à Paris. On le voit, André Léo a une longue vie riche d'écrivaines militantes, grâce à sa personnalité hors du commun. Merci. Monsieur le Président. Bon, je vais passer.
Tu vas avoir tous les panneaux, je crois, pour les chevalets.
Bien, bonjour à tous. Alors, j'ai l'honneur de présider cette demi-journée et d'ouvrir nos débats. Simplement, en écoutant tout à l'heure Frédéric Chauveau évoquer ses souvenirs de la société de 48, je me suis dit que finalement, il y a quelques années, avant d'arriver à Poitiers, j'aurais vraisemblablement fait partie de ces gens qui auraient opiné du chef d'un air entendu, pensant connaître ou faisant croire connaître André Léo, ce qui n'était pas le cas. Mais quand je vois l'importance de l'auditoire aujourd'hui, je me dis que finalement, bientôt, à Poitiers, plus personne n'ignorera l'existence d'André Léo, et c'est tant mieux. Alors simplement, j'ai finalement le rôle ingrat de jouer le gardien du temps aujourd'hui, ce matin en tout cas. Et vous avez dû le voir dans les programmes, notre demi-journée, notre matinée va se décliner selon deux axes, puisque nous allons tout d'abord aborder les influences, puis ensuite les combats d'André Léo. Avec quelques modifications d'ailleurs de programme, mais que j'évoquerai plutôt après la pause. Dans l'immédiat, et pour ne pas perdre plus de temps, j'ai le plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Nicole Pellegrin, qui est une anthropologue historique, moderniste, mais qui travaille également sur les champs qui a largement labouré les champs du 19e siècle, et travaillé notamment sur les questions liées au genre et au féminisme. Et donc Nicole Pellegrin va aujourd'hui évoquer féminisme et révolution française à partir de l'exemple d'André Léo et de quelques-unes de ses contemporaines, donc pour une intervention de 25 minutes. D'accord. Je vous remercie.
Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je me sens très heureuse, très émue d'être à l'Espace Mendès France et surtout d'évoquer André Léo et certains aspects de sa pensée ô combien complexe et riche. Alors j'ai été un petit peu téméraire en proposant un intitulé vaste qui serait ce qui était ou qui veut être « Féminisme et révolution française dans la pensée d'André Léo et de quelques-unes de ses contemporaines ». Alors j'ai l'impression d'ouvrir ici des portes ouvertes puisque nous savons bien que depuis 1789, toutes les féministes, toutes les féministes, j'insiste bien sur l'existence de compagnons dans ce combat-là, se sont interrogées sur 89. comme à la fois événement fondateur, mais aussi comme événement qui a clos, qui a empêché l'émancipation des femmes qui étaient peut-être déjà en route avant la Révolution française. Alors, enfoncer ici des portes ouvertes, mais en même temps, s'interroger plus finement peut-être que je ne l'avais fait dans le passé sur les lectures extrêmement variées de ces différents féministes masculins et féminins sur la Révolution française. Et il me semble que le cas d'André Léo est particulièrement intéressant, puisque pour elle, la Révolution française est effectivement un acte fondateur, mais c'est une révolution à compléter, à enrichir, à faire être libre et égaux. Ces deux termes ont-ils été réellement dans le programme de 89? Alors, ces faits sont bien connus, mais méritent peut-être d'être approfondis. Vous avez entendu, grâce à mon voisin, que je ne suis pas une 19e-miste, mais une moderniste, et donc je ne suis pas, contrairement à ce qu'a dit Frédéric, une spécialiste, alors que je sais qu'il y a dans l'auditoire des gens extrêmement compétents. Donc, je vais me contenter aujourd'hui de poser un certain nombre de questions à travers un prisme un petit peu particulier, qui est celui de la quête du vocabulaire employé par André Léo pour définir la révolution française. S'agit-il de 89? S'agit-il de 93? Qu'est-ce que ce mot-là a à voir avec sa pensée? Et à quel moment et dans quel type de texte apparaît-il? Et là où la thématique d'aujourd'hui est particulièrement intéressante, on a souligné tout à l'heure qu'André Léo avait plusieurs vies, et il est évident que nous allons devoir travailler finement pour essayer de saisir s'il y a des évolutions de la pensée d'André Léo en matière de révolution française. Alors, je tiens à dire, et je le redis parce que c'est très important, je ne suis pas une spécialiste et je suis heureuse d'être ici pour pouvoir me faire battre, c'est-à-dire me faire contester, me faire questionner. Mais je suis heureuse aussi d'être là parce qu'il y a dans l'assistance toute une série d'éminentes spécialistes dont j'ai exploité le savoir. Je pense évidemment à Fernanda, je pense à Alice Primi, je pense aux d'autres amis qui ne sont pas là, comme Florence Rochefort, Laurence Klejman, Karen Hoffen, qui ont déjà travaillé sur cette question. Alors, les mots pour dire la révolution. Quelques relevés. Alors, première chose à dire, c'est que je vais être un peu pédago et un peu peut-être schématique en distinguant trois types d'écrits d'André Léo, les œuvres de fiction, les essais et les écrits politiques divers, qui sont essentiellement des articles de journaux. Alors, ce premier classement est tout à fait contestable. Je dis bien que c'est uniquement parce que, pour des raisons de commodité, que je l'emploie. Travailler sur le thème de la révolution dans les écrits de Léo, j'ai dit tout à l'heure que j'allais chercher le vocabulaire qu'elle utilise pour définir cet événement fondateur, mais il est bien évident qu'il faudrait faire plus que cela et souligner, mais d'autres avant moi l'ont fait, je crois, qu'il y a chez André Léo quelque chose de révolutionnaire, pas seulement dans son éventuel usage politique de la Révolution française, mais dans sa manière d'écrire. Effectivement, elle est, après Olympe de Gouges, qu'elle ignore superbement, on y reviendra tout à l'heure, il y a comme Olympe de Gouges chez André Léo, la capacité à utiliser toute une série de types d'écrits, de supports, qui me paraît extrêmement important, intéressant à souligner, notamment auprès de celles et de ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de lire André Léo. Quand on l'a dit journaliste, elle est auteure d'articles de journaux, mais elle est aussi l'auteur de pamphlets, en même temps qu'elle est auteure de romans, d'essais, de traités. Et il y a un certain nombre de ces textes dont on ne sait pas exactement où il faut exactement les ranger. J'insiste sur cette mise en forme que j'estime subversive et qui est parallèle, me semble-t-il, à la thématique, elle aussi subversive, d'œuvres qui, par définition, ne devraient pas être considérées comme révolutionnaires. Ces romans, à la George Sand, disait Vallès, sont des œuvres qui sont à la fois des œuvres, je dirais, politiques, de réflexion théorique sur la situation des femmes et sur l'éducation dans les campagnes, au même titre que des purs ouvrages d'imagination. Alors, je close cet aspect-là, qui me paraît très important, mais qui ne fait pas partie de ce que je veux développer aujourd'hui, pour me tourner vers le vocabulaire utilisé par Léodile pour définir la révolution. Et on va regarder tout à l'abord quelques-unes de ces fictions. Si on regarde le mariage scandaleux, par exemple, c'est là où, me semble-t-il, on voit pour la première fois une apparaître, mais de façon encore assez timide, cette opposition très forte qui court à travers tous ces écrits à mes yeux, l'opposition entre 89 et 93. 89 versus 93, le mariage scandaleux peut-être qui date de 1862, faut-il dire que l'action se passe sous la monarchie de Juillet et que donc tous les protagonistes ou une bonne partie des protagonistes sont eux-mêmes des survivants de la Révolution française. Alors c'est important à dire parce que finalement la Révolution française dans cette fiction, elle est évanescente, elle est extrêmement peu présente. Même si l'on nous donne la généalogie des familles Bourdon-Bertin, auxquelles est liée là l'héroïne Lucie Bertin dans ce roman, on nous dit que le grand-père est un constituant qui a été guillotiné en 93. Donc, ce qui me paraît intéressant peut-être à souligner auprès de vous, mais vous l'avez noté déjà, c'est que, me semble-t-il, la première apparition de la Révolution française dans les écrits de Léodile, c'est l'horreur, la terreur rouge, comme elle le dit dans des textes bien ultérieurs, c'est-à-dire la guillotine de 93. Alors, c'est intéressant de voir que peu après cette première allusion, qui est vraiment très très rapide, on voit apparaître un personnage de girouette, comme on disait à l'époque de la Révolution française, l'oncle de Lucie, qui est un agioteur, un profiteur de tous les régimes, et qui est celui qui, dans ce roman, fait une superbe tirade sur la Révolution française comme révolution bourgeoise, qui permet de faire accéder au pouvoir ou aux élites une partie du peuple, mais en canalisant toutes les énergies populaires. Ce qui veut dire que ce roman me paraît très intéressant parce qu'il est révélateur des tensions qui sont celles dans l'esprit de Léodile. Le mot révolution, vous l'avez entendu, en est absent. Et quand il s'agit de parler de révolte ou de contestation sociale, il y a un passage tout à fait hilarant où des paysans parlent de lutte intestinale, puisqu'ils ne connaissent pas le mot d'intestine, bien sûr. Alors, je pourrais épiloguer plus longtemps sur cette œuvre qui me paraît tout à fait fascinante. La seule allusion faite, me semble-t-il, par l'héroïne elle-même à la Révolution, c'est quand elle dit que sa mère lit trop de romans et qu'elle-même, elle doit se débarrasser, citation, des miettes moisies d'un autre siècle. Donc c'est les Lumières, d'une certaine manière, qui sont ici balayées en quelques mots par notre Léodile. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que son point de vue sur la Révolution est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin qu'on ne l'a dit ou que moi-même je l'ai cru. Alors si on se tourne rapidement sur un autre roman bien postérieur, celui de Marianne, mais ici vous voyez que je suis en train de tirer profit des ouvrages qui ont été rééditées récemment grâce aux soins et de l'association André Léon et de l'association des publications chevinoises. Nous leur en rendons grâce au travail formidable qu'ils et elles ont fait. Donc Marianne a été rééditée il y a peu de temps. Et il est intéressant là aussi de travailler sur le mot à mot de ces textes. Alors Albert, le prétendu de Marianne, un faucheton comme il en est peu, quand il est au quartier latin, il est extrêmement hostile à tout ce qui est révolte comme facteur de confusion. Et il dit que finalement, se révolter ou se mettre en révolution, c'est remettre le monde à l'envers, comme on disait au XVIIIe siècle, et en fait revenir au point de départ. Et quand il est question de l'émancipation future de la femme dans ce roman, le héros progressiste Pierre souligne que l'héritier de 93 entend être roi dans sa maison, mais qu'il lui faut aussi des joies de sultan. Donc là aussi, il y a ici là l'idée très forte et bien connue de la plupart d'entre vous, que la Révolution française, qu'est-ce qu'elle a fait en matière d'émancipation des femmes? C'est en fait renforcer le pouvoir des hommes sur les femmes. Mais vous avez entendu aussi que, faisant cela, c'est toujours la subtilité de Léo que vous saisissez, elle ne parle pas des méfaits de 89, mais des méfaits de 93. Intéressant enfin de voir que dans ce roman, c'est seulement dans l'avant-dernier chapitre, dans une grande lettre que Pierre envoie à Marianne, sa future, que l'on voit développer à la fois une profession de foi égalitaire et que on a une superbe évocation des principes de 89 et de ce qu'ils peuvent apporter de positif pour les femmes. Donc cette opposition 89-93 que j'ai pointée pour des raisons de commodité dans deux œuvres de fiction, si vous refaites une lecture attentive de l'ensemble des œuvres d'André Léo, vous verrez que cette tension-là vit tout au long de ses écrits. Dans les essais, je me tourne vers eux maintenant, des lieux où la rigueur et la vigueur de la pensée d'André Léo s'expriment avec encore plus de force, on retrouverait bien sûr ce que je viens de dire, mais de façon beaucoup plus systématique. Nous savons, celles et ceux qui ont eu la chance de lire « La femme et les mœurs, monarchie ou liberté », le sous-titre est au moins aussi important que le titre dans cette œuvre de 1869, dès le deuxième paragraphe, le mot « révolution » apparaît très clairement. Dans un paragraphe, je ne peux pas m'empêcher de le lire, « La question de la femme est née de la Révolution française, qui créa ou renouvela toutes les questions par le principe nouveau qu'elle a proclamé et où l'égalité des femmes, comme toutes les autres, est contenu. » Alors, le terme révolution, grand R et grand R, un jeu que je dois d'ailleurs personnellement encore approfondir, qui est assez intéressant dans les œuvres d'André Léo, comme d'ailleurs dans ceux des historiens de l'époque et des quelques historiennes comme Jenny Déricourt et autres qui se réfèrent à cet événement fondateur. Le terme de révolution sous ses deux formes, majuscules et minuscules, apparaît 11 fois. Alors, je suis une historienne quantitativiste, du moins dans ma jeunesse, donc des comptages ne sont pas absolument ridicules. Et intéressant de voir, ils apparaissent deux fois au début, dès la première page, et ils sont encore deux fois dans la dernière page. Il y a là une volonté, une capacité rhétorique d'André Léo qui est assez intéressante. Elle sait boucler ces textes avec une force tout à fait intéressante, bien évidemment. Alors, je n'ai pas le temps de trop développer les différents usages de ce mot, mais c'est Alice Primi, je crois, qui est la première à souligner qu'il est intéressant que dans ce livre, qui est le premier dans lequel elle brosse une sorte d'histoire de l'humanité au féminin, Les événements fondateurs pour les femmes sont en nombre très très réduit. Et la seule autre révolution qui est évoquée dans ce livre, c'est celle de 1848, comme si entre 89 et la fin du Second Empire, seule 48 aurait pu, elle le dit bien avec un conditionnel très très fort, aurait pu être intéressant pour les femmes. Important peut-être aussi de souligner que si elle prononce le nom d'un certain nombre de 48ardes à cette occasion-là, de Rouen, Pauline Roland et puis Pierre Leroux, les seuls héros de la Révolution française qui sont mis en avant par André Léo, c'est Voltaire, si on peut dire qu'il est de la Révolution française, et Condorcet, dont elle cite un long passage de l'article sur l'admission des femmes, et dès la deuxième ou la troisième page. Alors, j'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que c'est les féministes du même moment, mais plus encore, bien sûr, les féministes de la fin du XIXe siècle, se gorgent, si je puis dire, pour mon plus grand bonheur, de noms de femmes qui ont participé activement à la Révolution française et qui ont essayé de donner des droits aux femmes et pas, en se contentant pas, de laisser les hommes trôner à l'Assemblée. Or, il y a chez André Léo, et je le livre cette information parce que ce sera dans ma conclusion une des dernières questions que je voudrais poser à cet éminent auditoire, pourquoi y a-t-il ce gommage de celles qui l'ont précédé, excusez-moi, dans des luttes, lors même que lorsqu'elle écrit « La femme et les mœurs », on a, notamment grâce à Michelet, dont elle dit pique-pendre, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a écrit « Les femmes dans la Révolution » qu'on n'a pas dénoncé des noms de Théroigne, Keralio, Olympe, Lacombe, et j'en passe, et des meilleurs. Ce qui veut dire que dans ce texte, et dans d'autres textes de Léo, que je n'aurai peut-être pas le temps d'analyser, il y a la volonté, et elle est très forte, il ne faut pas l'oublier, de créer une filiation féministe, mais en même temps, il y a la création de ce que j'appelle un éternel masculin tellement fort qu'il efface tout ce qui est de l'ordre de l'action ponctuelle des femmes. Elle le dit très très bien, chaque mâle style proudhonien veut avoir, depuis la Révolution française, une parcelle de droit divin. Donc, et André Léo, d'une certaine manière, est l'illustration même de ce que John Scott appelle la citoyenne paradoxale, à savoir quelqu'un qui sait que l'émancipation est promise et n'est pas donnée, et en même temps qui ne relève pas toutes les actions ou toutes les actrices et acteurs qui ont pu ou qui pourraient ou qui ont contribué à aider à une émancipation qu'elle dit malgré tout en marche. Alors, une analyse autre peut être faite dans les articles de journaux des années suivantes et dans les textes plus théoriques dont vous savez ou vous devez savoir qu'ils se signalisent notamment pendant la période de la Commune par une radicalisation et stylistique et thématique, bien évidemment, au moins temporairement, j'insiste sur ce point. Alors, une autre révolution, bien sûr, apparaît. La révolution actuelle, la révolution de Paris, la révolution du 18 mars, les articles dans la sociale font apparaître une nouvelle forme de révolution. Vous le savez ou vous ne le savez pas, personnellement, je l'étais très surprise de voir que le terme de commune apparaît extrêmement tardivement dans les écrits d'André Léo de cette période, ô combien courte, faut-il le souligner. Et à ce moment-là, il y a un effet rhétorique systématique qui est employé par André Léo, que je trouve d'un point de vue littéraire extrêmement intéressant à souligner, c'est le martèlement des mots « révolution », alors même que le mot « commune », lui, apparaît, je le dis bien, dans les articles de la sociale que j'ai lus, qu'une ou deux fois seulement. Et il est intéressant de voir aussi qu'il y a à ce moment-là une espèce de flou chronologique qui me semble apparaître dans la pensée d'André Léo. Alors qu'elle parlait dans les textes que j'évoquais tout à l'heure, de « depuis 1789 » ou « depuis 93 », là, elle va se mettre à parler de « depuis 80 ans ». Or, nous sommes en 1871. Donc, du même coup, il y a une sorte de reconsidération de sa part de la Révolution française et émergence de la date de 1791 qui, effectivement, peut apparaître dans l'histoire propre des femmes comme le bouclage définitif des principes de 89. Et il faut ici citer dans la Révolution sans les femmes, parue dans la sociale du 8 mai 1871, le dernier paragraphe toujours cité, mais extrêmement intéressant. On pourrait, d'un certain point de vue, écrire l'histoire depuis 89 sous ce titre « Histoire des inconséquences du parti révolutionnaire ». La question des femmes en ferait le plus gros chapitre et l'on y verrait comment ce parti trouve moyen de faire passer du côté de l'ennemi la moitié de ses troupes qui ne demandaient qu'à marcher et à combattre avec lui. Mais c'est d'une certaine manière, dans les textes jusqu'à cette période d'André Léo, la seule véritable évocation d'une participation active des femmes aux luttes émancipatrices. Alors, la question sociale, dont on a souligné Frédéric tout à l'heure, qui en a la chance, qui vient d'être rééditée grâce à Michel Perrault, la question sociale, ce discours prononcé à Lausanne le 27 septembre 1971, est intéressant parce que lui, il est une défense de la commune et il est bâti sur une comparaison avec 93. S'il veut dire que si l'on essaye de comprendre les jugements portés par Léo sur la commune, nous savons toutes et tous qu'elle y a participé de façon très active. Mais nous savons aussi toutes et tous combien elle a été réticente à l'égard de certains personnages qui dirigeaient la commune de Paris. On se rend compte à ce moment-là que la création de cette comparaison entre les tyrans de 93, je la cite, avec les pachas, et notamment Bakounine et autres, de la commune, est quelque chose qui nous oblige à revisiter, d'une certaine manière, ce qu'elle pense ou ce qu'elle a pensé de la commune. Il faut avouer cependant, en même temps, que sa comparaison entre ce qu'elle appelle la terreur rouge, ce que nous appelons la grande terreur de 93-94, cette comparaison avec ce qu'elle appelle par ailleurs la terreur tricolore, c'est-à-dire les violences, les représailles des Versaillais, elle dit que c'était de la gnognotte, pour parler rapidement, que la grande terreur par rapport à ce qu'ont fait les montagnards en 93. Alors, si l'on fait des relevés, là aussi quantitatifs, ce texte de la question sociale est intéressant, puisque c'est maintenant non plus 89 qui apparaît de façon systématique, mais on a 5 fois, je relis mes notes parce que je ne sais plus, la date de 93, 2 fois le terme de révolution du 18 mars, 1 fois la grande révolution, il s'agit encore de 89, et 1 seule fois la date de 89, qui est évoqué. Ce qui veut dire donc que ici, notre André Léo révèle à partir de ce jeu sur les événements de la Révolution française, des perceptions peut-être plus fines que celles que je lui prêtais de ce qu'elle a vécu. Alors, comme le temps passe très très vite, il faudrait travailler sur d'autres textes, et notamment le dernier et le plus fameux, ce que j'appelle un pamphlet, mais qui est en même temps une vaste histoire universelle, qui est « Coupons le câble » de 1899. Là, les comptages sont intéressants. 89 refait son apparition, 1848 quelque peu, et on voit d'autres dates qui surviennent, comme 1815, 1830, 48, etc. etc. Je rappelle pour... finir sur une note un peu drôlatique, que l'apôtre Paul, dans ce pamphlet violemment anticlérical, est traité de jacobin, évidemment. Intéressant plus encore, le fait que le mot de révolution est remplacé ici par celui d'évolution. Et il y a un retournement. Et ce mot, qui est un mot qu'il faut retravailler, j'en ai saisi l'importance qu'il y a quelques jours seulement, dans la commune de Malampie, par exemple, le personnage de l'instituteur est un retourneur. Et quand on lit les derniers romans, et surtout Coupons le câble d'André Léo, on voit tout d'un coup le mot révolution être remplacé par ce mot d'évolution. Et l'idée qu'il faut retourner les choses, éventuellement retourner à 89, mais on n'est plus du tout dans la véritable guerre sociale. Alors, ma conclusion, ma deuxième partie, je la saute, mais je veux dire qu'il est intéressant, me semble-t-il, de souligner la méfiance d'André Léo face à l'histoire. Face à l'histoire et face aux historiens. Alors, je dis ça parce que je me suis plongée dans cet aspect des œuvres d'André Léo parce que je m'intéresse à l'histoire des historiennes. Eh bien, elle n'aime pas Michelet, elle n'aime pas le père Loriquet, bien sûr, elle n'aime pas le petit historien, vous savez qu'il s'agit de Thiers, bien sûr, mais elle n'aime pas Michelet, mais elle n'utilise pas les travaux historiques ô combien nombreux qui se sont mis à apparaître dans la deuxième partie du Second Empire et qui ont fait apparaître en nombre de plus en plus nombreux les femmes actives dans la Révolution. Alors, j'ai fait un palmarès, s'il y a une version écrite que vous aurez, des femmes célèbres qu'elle nomme ici ou là. Il y a Jeanne d'Arc, il y a Jeanne Hachette, il y a Elisabeth Fry et Catherine de Médicis et Sophonisbe B. Par rapport aux femmes qui écrivent sur les femmes à cette époque-là, et notamment des historiennes comme Hubertine Auclair ou Maria de Rheims, mais aussi Jenny d'Héricourt et ses strictes contemporaines, il y a là une éviction du panthéon féminin qui m'intrigue fortement. Et je terminerai sur cette note qui est une question, mais j'en avais beaucoup d'autres que les débats feront apparaître. Je m'excuse d'avoir été si longue. Je vous remercie de votre attention et à vos questions.
Merci beaucoup, madame, pour cette communication très, très éclairante qui souligne vraiment l'importance de la mémoire et de la filiation, et puis en même temps tous ces paradoxes qui permet aussi de comparer les révolutions du 19e siècle. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de garder vos questions, sans doute très nombreuses, pour la discussion donc, que nous reportons après la deuxième communication. Et pour l'instant, donc, j'appelle Caroline Granier à me rejoindre pour une intervention sur André Léo comme auteur engagé, ses liens et ses affinités avec les écrivains libertaires.
Oui.
Je précise que Caroline Granier est donc docteur en lettres modernes et que vous avez soutenu une thèse sur les anarchistes, les écrivains anarchistes de la fin du 19e siècle. Donc une communication de 25 minutes également.
Oui, alors je vous remercie. Jusqu'à 45.
Oui, 30. moins 20, 45.
40. Bon, je vais.
Avec une petite souplesse.
Alors, bonjour. Je vais essayer de faire court parce qu'en fait, depuis que j'avais proposé le titre de mon intervention, j'ai un petit peu rallongé, donc j'ai un petit peu débordé sur ce que j'avais annoncé. Donc, je vais non seulement essayer de vous présenter en quoi André Léo a des points communs avec les écrivains anarchistes de son époque, écrivains libertaires, donc j'en parlerai un petit peu, et puis il m'a semblé aussi intéressant de montrer en quoi elle s'en distingue et d'insister sur son féminisme, et puis je pourrais parler comme ça un petit peu d'Aline Ali, dont vous pouvez trouver le livre ici, qui vient juste de sortir. Voilà, donc je vais passer pas mal peut-être sur les citations que vous retrouverez dans la version écrite, hein, pour aller un petit peu plus vite. Alors, André Léo s'est jamais évidemment déclaré ouvertement anarchiste, mais moi je considère que de par ses idées, on peut la classer dans la catégorie des écrivains libertaires, un large mouvement d'écrivains que j'ai étudié justement dans ma thèse, qui a été édité en livre. Et donc j'ai recensé ici une trentaine, soixantaine d'écrivains, plus ou moins connus, qu'on peut regrouper dans un courant que j'ai appelé littérature engagée, hein, même si c'est assez anachronique, à la fin du 19e siècle. Ces écrivains se rejoignent, ils ont une volonté commune de diffuser leurs idées révolutionnaires, libertaires, par leurs écrits et par leurs actions. Et évidemment, André Léo, au sein de ce mouvement, se distingue par son féminisme. Alors, je vais essayer de montrer comment elle conjugue les deux facettes de son engagement. D'abord, ce qu'elle partage avec ses écrivains, puis son originalité. Pour ça, je vais m'appuyer en particulier essentiellement sur les romans. Et ses premiers romans jusqu'à Aline Ali, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a ? Une vieille fille, un divorce, les deux filles de Monsieur Plichon. Alors j'ai laissé de côté Jacques Galéron parce que d'un point de vue idéologique, il m'intéressait moins. Voilà, et jusqu'à... Attendre, espérer, double histoire aussi, j'en parle moins. Bon, c'était pour mon sujet moins riche. Alors d'abord, je vais présenter en quelques mots la démarche des écrivains anarchistes. Ces écrivains, c'était aussi bien des littérateurs qui étaient engagés dans l'action politique. Alors, pour citer les plus connus, Georges Darien, Octave Mirbeau, Jules Vallès, hein, c'est ce qu'on connaît en général, mais il y en a beaucoup qu'on a complètement oublié. Et puis, il y avait aussi des militants qui ont choisi d'écrire, de diffuser leurs idées par la fiction. Alors ça, on le sait moins en général, des gens comme Charles Malateau, Louise Michel... Jean Grave, à l'époque, théoricien anarchiste, ont écrit énormément de fiction, drames, romans, poèmes, etc. Alors, les genres littéraires qu'ils ont choisis sont très variés. On avait l'autobiographie, le théâtre, le roman, les nouvelles en trois lignes de Fénéon. Il y avait à peu près de tout. Comme disait Nicole Pellegrin, ils utilisent aussi beaucoup, tous les genres, que ce soit l'essai politique, les journaux, les fictions, tout est bon pour diffuser les idées. Ces auteurs n'étaient pas affiliés à une école littéraire en particulier, ça allait du symbolisme au naturalisme, ils voulaient complètement indépendants, et leur seul souci, leur point commun, c'était dénoncer tous les pouvoirs, faire coïncider les mots et les actes, et un engagement personnel et littéraire, un engagement évidemment en dehors de tout parti, hein, pas du tout sectaire. Donc André Léo s'inscrit pleinement dans ce mouvement des écrivains anarchistes. C'était un mouvement fait de rencontres, de discussions, au sein des petites revues, dans les journaux, qui étaient à la fois journaux politiques et littéraires, donc qui mêlaient vraiment les deux domaines. Alors, je vais regarder un petit peu pour André Léo comment elle s'inscrit dans ce mouvement. Pour comprendre la nature de son engagement, je suis partie de son discours à la guerre sociale, donc elle a écrit après la semaine sanglante, et où elle dénonce la rhétorique des vainqueurs au service du mensonge. Donc je cite, « On a répandu sur ces horreurs comme des voiles tous les mots que la langue prête aux rhéteurs pour combattre la vérité. » on pourrait faire plein de comparaisons, en particulier avec Georges Darien, qui dans l'épaulette a exactement la même démarche où elle condamne le détournement du sens des mots fait par les Versaillais. Donc je vous cite juste Darien. Je passe sur la citation. Donc André Léo conclut sur cette question qui est vraiment fondamentale pour les anarchistes, qu'est devenu le sens des mots, hein, c'est une interrogation qu'on retrouve souvent, puisque ça touche à un point essentiel de la pratique anarchiste, ici la volonté de faire coïncider les mots et les actes. Si les mots n'ont plus de sens, c'est la confiance dans le lien qui unit le signe à son référent qui disparaît. Le langage est en danger et à travers lui le lien social. La formation d'une communauté, donc finalement la démocratie. Alors ce que tentent de faire les écrivains anarchistes, hein, et ça on le retrouve dans tous les écrits, c'est réduire l'écart entre le mot et la chose, faire en sorte que les paroles et les actes coïncident. Par exemple, que le peuple souverain ait réellement prise sur le politique. Je cite André Léo, c'est toujours dans La guerre sociale, je crois. La langue noble et sérieuse n'existe plus, cela est effrayant, car ce n'est pas seulement la langue qui se perd, mais tout ce qui unit véritablement les hommes et consolide leurs rapports. C'est la base de tous les sentiments naturels et vrais, la confiance qui disparaît. Donc elle incite son lectorat à sous-peser les mots, à ne pas les prendre pour argent comptant. Elle dénonce les mots vides, le discours de l'idéologie dominante, et toute la rhétorique après qui sert l'ordre patriarcal. Donc ça, je passe un petit peu, on retrouve ça dans La femme et les mœurs, toujours cette même dénonciation des discours creux. Alors cette question nous amène aussi à un autre aspect important de la pratique anarchiste, c'est l'engagement de l'artiste. Tous les militants et écrivains libertaires répètent qu'il faut s'engager, il faut, selon le mot de Vallès aussi, prendre parti. C'est ce que dit aussi Proudhon dans son discours du principe de l'art, enfin dans son livre « Du principe de l'art et de la destination sociale ». Comme dit André Léo, quand les vainqueurs ont seuls la parole, quand les vaincus ne peuvent rien alléguer ni rien démentir, il faut prendre parti dans ce drame terrible qui n'est pas fini, etc. Ça, c'est dans la guerre sociale. Alors c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer la méfiance des écrivains anarchistes envers l'histoire. Hein, c'est ce dont a parlé Nicole Pellegrin tout à l'heure. Elle se méfie de l'histoire parce que l'expérience de la commune qu'ont vécu de nombreux écrivains et militants anarchistes les a fait réfléchir sur la façon dont on écrit l'événement, surtout après la semaine sanglante, en fait, et la répression versaillaise. En effet, ils ont essayé de témoigner de ce qu'était la commune, et il est apparu à ce moment-là qu'on ne pouvait pas rester neutre. Alors, c'est ce que dit, par exemple, mais il n'est pas le seul, Lucien Descaves, qui s'est beaucoup occupé de la commune, qui a écrit Philémon Vieux de la Vieille, en particulier, et où il dit que l'impartialité n'est généralement qu'un masque, une échappatoire, la crainte ou la capacité de choisir entre le blâme et l'approbation. Donc, on retrouve cette dénonciation pratiquement chez tous les écrivains. Il faut prendre parti, on ne peut pas rester neutre. Et c'est pour ça que moi, j'ai considéré qu'on pouvait les considérer comme des écrivains engagés, de façon anachronique, à l'époque où dans le sens où Jean-Paul Sartre la définira plus tard. Des écrivains qui veulent mettre leur plume au service de leurs idées, mais évidemment sans s'inféoder à un parti. Voilà, donc ces écrivains sont engagés. André Léo fait partie de cette mouvance, elle correspond avec eux, elle intervient dans les revues, elle a des discussions, etc. Et je vais regarder ça à partir d'un petit roman, La commune de Malampis. Je vais essayer de voir justement la portée politique de ce récit, comment dans la fiction, elle se sert de la fiction pour diffuser les idées libertaires. Alors, La commune de Malampis, c'est un petit conte didactique, une forme qui se prête bien à l'exposition de l'utopie. Elle l'écrit donc juste après, c'est publié en 1974. On reconnaît évidemment la commune de Paris, même si elle n'est pas expressément nommée dans le texte. Alors, c'est à la fois une utopie et une contre-utopie. Ça se présente comme un conte destiné aux enfants. La narratrice ou le narrateur dresse le tableau d'une société utopique, puisque ce sont des habitants qui se gouvernent eux-mêmes, sans représentants. Et elle montre comment cette commune, avec le temps, se dégénère pour ressembler finalement à la société qu'elle connaît du 19e siècle. Donc l'utopie devient une contre-utopie. Et les lecteurs, du coup, sont amenés à partager le regard du narrateur en voyant la société de leur temps présentée comme quelque chose d'abominable quoi, par rapport à l'état initial. Alors c'est un récit qui illustre en fait l'absurdité qu'il y a à vouloir déléguer son pouvoir, sans masquer pour autant les difficultés que l'on a à se gouverner soi-même. Au départ, les habitants de Malampis ne laissent à personne le droit de décider à leur place, et très vite, ils renoncent à prendre en main leurs affaires. Donc tout dégénère, il y a un roi, les sujets sont privés de tout pouvoir, les richesses sont privatisées, les jeunes enrôlés dans l'armée, enfin rien ne va plus. Alors il y a une deuxième étape qui raconte la prise de conscience des habitants, et ça donne lieu aussi à une réflexion sur le langage. Le mot « ordre », par exemple, apparaît comme un mot trompeur. Je cite le narrateur, « C'est un ordre assuré, celui où il n'y a qu'une tête, qu'une parole et qu'un commandement, mais il s'agit de savoir si les choses en vont mieux pour ça, car m'est avis qu'un ordre où ça ne va pas bien n'est pas un bon ordre. » Et plus tard, elle dit, « Cet ordre-là est un vrai désordre et un enfer. » Donc on retrouve l'attention d'André Léo portée aux mots creux, aux fausses évidences, etc. Et donc les habitants de Malampis reconnaissent finalement qu'il ne faut pas s'arrêter aux mots essaye de retrouver une vraie démocratie. Donc il y a une prise de conscience grâce au personnage de Jacques, donc personnage de retourneur effectivement, qui est lui-même un cultivateur et qui va pouvoir former, il devient instituteur, forme des jeunes gens conscients qui vont pouvoir aider à détrôner la monarchie. Et grâce aux femmes qui vont jouer un grand rôle dans la Révolution, finalement, les habitants retrouvent leur liberté d'agir et leur autonomie. Alors, il me semble que c'est un petit récit qui tient une place à part dans la production d'André Léo. Ceci dit, on y retrouve déjà tous les thèmes chers à l'auteur, l'émancipation, l'importance de l'éducation, le rôle joué par les femmes et par les paysans dans les transformations sociales et politiques, la dénonciation du pouvoir, etc., etc. Est-ce que c'est un récit révolutionnaire ? On pourrait penser que les habitants de Malampie, finalement, sont assez réformistes. Hein, il n'y a pas d'égalité économique, il n'y a pas l'abolition de l'argent, par exemple. Il n'y a pas de mixité totale. Mais, en fait, c'est quand même, il me semble, une organisation totalement libertaire parce que c'est l'organisation choisie en toute liberté par les habitants. Donc, on peut qualifier ce système d'anarchiste. D'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est les liens qu'elle tisse entre utopie et dystopie, la contre-utopie, si vous voulez, puisque l'utopie ne se présente pas comme un pays complètement imaginaire sorti de l'idée de l'auteur, mais c'est au contraire la dystopie qui est présentée comme un état anormal, monstrueux, qui ne devrait pas être. Donc les lecteurs sont amenés à porter sur la société de leur époque un regard d'utopiste, un regard qui interroge et qui dénonce en fait tout ce qui ne va pas dans l'état social de leur époque. Donc elle déplace le point de vue pour nous faire envisager différemment la société. Et ça, c'est une méthode qu'on retrouve pas mal chez les écrivains libertaires aussi. Alors je voudrais juste évoquer un autre roman qui mériterait d'être connu, Georges Écoude. C'est un peu plus tard, 1889, Georges Écoude est le premier à présenter un roman, le récit d'un homosexuel, qui annonce sa fierté d'être homosexuel dans la société de son époque. Là encore, c'est pas vraiment une utopie, mais le regard est déplacé et ça nous pousse à envisager les rapports entre les sexes présents à l'époque comme des rapports faux, inégaux, basés sur la domination. Et ça remet en cause complètement la vision, l'hétéronormalité. Donc ça, c'est intéressant. Et André Léo, dans ses romans féministes, fait un petit peu la même chose, hein, en essayant de nous montrer que les rapports entre les hommes et les femmes sont pas heureux, pourraient être modifiés. Et donc, elle a cette même démarche. Alors, je vais insister maintenant sur la pensée féministe d'André Léo, avec les romans qui suivent La Commune de Malampie, et puis Une vieille fille aussi. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est qu'André Léo est une des rares féministes proches des anarchistes. Beaucoup d'anarchistes avaient une pensée féministe. Élisée Reclus, hein, qu'elle connaissait bien, dont elle était proche. Je cite Élisée Reclus quand même. Il disait, donc, il a écrit dans L'Homme et la Terre, « C'est dans la famille surtout, c'est dans ses relations journalières avec les siens que l'on peut le mieux juger l'homme. S'il respecte absolument la liberté de sa femme, si les droits à la dignité de ses fils et de ses filles lui sont aussi précieuses que les siens, alors la preuve est faite, il est digne d'entrer dans une assemblée de citoyens libres. Sinon, il est encore esclave puisqu'il est tyran. » Là, on retrouve un peu les idées d'André Léo dans La femme et les mœurs. On trouve d'autres discours très féministes, en particulier autour de Jean Grave, Kropotkin dans son Utopie. Je ne me souviens plus du titre. Enfin, écrit aussi, enfin, défend le partage des tâches et dénonce l'esclavage ménager des femmes. Donc, on a beaucoup, tous les anarchistes ne sont pas comme Proudhon, hein, extrêmement anti-féministe. Mais ceci dit, on n'a pas toujours chez les écrivains un discours très féministe non plus. Et parfois, on trouve un manque d'intérêt pour le féminisme, un rejet du féminisme bourgeois, un rejet... les anarchistes sont aussi contre le suffrage universel. Parfois, ils ne voient pas l'intérêt de le demander pour les femmes. Et les auteurs qui, en fait, essayent de vraiment placer la question sexuelle dans le prolongement de leur lutte politique sont extrêmement rares. J'ai parlé de Georges Écoute tout à l'heure, il y avait Mécislas Goldberg un peu plus tard, mais André Léo est quand même atypique, puisqu'elle arrive vraiment à mêler les deux questions sans les dissocier. Donc, je vais montrer un petit peu aussi comment elle envisage donc, le féminisme en lien avec son caractère libertaire. Tout d'abord, dans tous ses romans, on a des personnages qui sont à la recherche de l'égalité. Deux personnages, des histoires d'amour, c'est toujours un petit peu la même trame. Deux personnages qui essayent de fonder une histoire, mais en étant sur un pied d'égalité. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour compenser l'inégalité qui existe de fait entre les hommes et les femmes, l'inégalité de genre, la narratrice utilise plusieurs ressorts, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une autre inégalité qui vient compenser celle-ci. Dans Une vieille fille, par exemple, le personnage de l'homme est pauvre et d'origine paysanne, tandis que la femme, c'est elle qui a l'argent. Dans Un mariage scandaleux, pareil, Michel, c'est un paysan. La femme est d'origine noble. Quelquefois, il y a une différence d'âge qui vient s'ajouter, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, il y a d'autres inégalités qui compensent un petit peu l'inégalité qui existe de fait entre l'homme et la femme, comme s'il fallait rétablir une sorte d'équilibre pour compenser ce que la société impose. En effet, entre un homme et une femme, tels qu'ils sont... tel qu'est leur rôle dans la société, toute amitié entre hommes et femmes paraît improbable. L'amitié, c'est à chaque fois fondée sur le respect mutuel. L'idéal est présenté comme l'amitié entre deux hommes. Hein, dans Les deux filles de Monsieur Plichon, par exemple, elle nous vante, le narrateur, un lien affectueux, quasi familial, sans passion, durable. L'idéal, c'est l'amitié entre égaux. Et donc, pour aspirer à cette amitié entre égaux, les femmes doivent renoncer quelque part à leur part féminine. Edith, on nous dit qu'elle a tant de sérieux et d'élévation qu'on ne saurait avoir vis-à-vis d'elle les pensées qu'inspirent naturellement les autres femmes, si pénétrées de leur sexe qu'on ne peut l'oublier. Pour dépasser son sexe biologique, pour qu'on l'oublie, il faut que la femme fasse oublier qu'elle est femme, et donc on évacue comme ça le charnel. Hein, ça, c'est quelque chose qui est notable dans les romans d'André Léo. Et les héroïnes d'André Léo ont un rapport assez ambigu à ce qu'on appelle, je mets des guillemets, la féminité. Alors, toutes les héroïnes d'André Léo sont indépendantes, révoltées. Et un point commun aussi de ces premières héroïnes, déjà même avant André Alice, c'est le travestissement ou l'enlaidissement. Hein. Par exemple, Marie Dubois, dans Une vieille fille, elle s'enlaidit en mettant des habits qui la font paraître plus laide qu'elle n'est en réalité. Pareil pour Edith dans les deux filles de Monsieur Plichon. Elle a des habits de ville qui l'enlaidissent. Mathilde Sarjat, c'est un peu particulier, dans Un divorce. Elle est tellement originale que son extravagance la met à l'abri de la séduction. Hein, donc personne ne pense à elle comme une femme. Elle n'a même pas besoin de se travestir. On dit d'elle que voilà, c'est pas une femme à épouser, on n'y pense pas. De même qu'Albert dira aussi en évoquant Edith, ces femmes-là n'inspirent aucun désir. Voilà, c'est la condition pour les femmes pour pouvoir accéder à un statut égal, à une amitié avec les hommes. Alors on a un personnage, je passe là-dessus aussi, un peu plus modéré, le personnage de Cécile dans L'idéal au village, où là c'est intéressant parce que c'est l'homme, justement, l'homme qu'elle va épouser plus tard, Louis de Pontvigaille, qui se travestit justement et qui n'a pas eu d'éducation, qui a un statut plus justement de femme, empêchée, prisonnier, etc. Donc c'est assez intéressant, mais dans ce roman comme dans les autres, les normes sexuelles sont questionnées à chaque fois. Alors on voit aussi une évolution de la pensée d'André Léo vers l'universalisme, puisqu'au début, dans Une vieille fille, la démarche de l'héroïne n'est pas tellement théorisée, mais certaines remarques témoignent encore d'une pensée essentialiste. En effet, au début, Marie Dubois s'est enlaidie et elle retrouve un moment un petit peu de coquetterie, elle retrouve ses cheveux, son bonnet, etc. Et la narratrice nous dit... Marie était femme et ne l'était pas moins pour en avoir en quelque sorte cessé de l'être pendant un temps. C'est très ambigu, hein, comme si en s'enlaidissant, elle n'était plus femme. Dans les romans suivants, il semble aller de soi pour l'auteur que l'habit ne fait pas la femme. Donc on a une sorte d'évolution comme ça de la pensée d'André Léo. De même que ces personnages, au fil du temps, au fil des romans, font plus propagandistes, militantes. Edith, par exemple, sort de sa réserve et elle devient moins tolérante. Elle apprend à composer avec la faiblesse humaine et à intervenir dans le monde. L'auteur donne ainsi à ses personnages la possibilité de faire changer les mentalités et donc le pouvoir de transformer la société. Dernière évolution aussi, les héroïnes apprennent peu à peu à renoncer au destin qui est le leur. Hein, le destin, être amante et être mère. Dans Un mariage scandaleux, on a l'impression que ça va de soi pour Lucie, et même Marie Dubois, qui malgré sa volonté et son indépendance, elle ne sait pas résister aux sollicitations de son amant. Dans Les deux filles de Monsieur Plichon, il y a un personnage qui est très antipathique, qui dit en parlant d'Edith, « C'est une haute intelligence, assurément, mais lui manque le plus bel apanage de la femme, le cœur. Sans le cœur, la femme n'existe pas. » Et ce qui est plus étonnant, c'est que ce discours est cautionné quelque part par Edith elle-même, qui dit à un moment, qui s'excuse, hein, « J'ai voulu aimer, je ne l'ai pas pu. » J'ai découvert l'antagonisme entre mes idées et ce que me présente le monde, je cite, hein, je résume. C'est depuis ce temps-là que je suis devenue froide en apparence, car je ne le suis pas en réalité, William. Donc, ici, c'est comme si elle s'excusait de n'avoir pas de cœur, de n'être pas aimante, de n'être pas comme toutes les femmes. Et ça, on voit que ça va changer aussi avec Aline Ali, puisque finalement, qu'est-ce qu'elle fait, Aline ? Elle fait passer son cœur au deuxième plan. Elle va lutter contre ce type d'amour qui est pour la femme une aliénation, pour la femme de cette époque. Et Aline donc, sera la première des héroïnes à renoncer à l'amour pour la lutte sociale. Donc je vais terminer en vous parlant un petit peu d'Aline Ali, qui pour moi c'est l'aboutissement de la pensée d'André Léo sur le genre. C'est un roman donc sur l'aliénation des femmes, mais qui est particulièrement original pour l'époque, qui montre une femme en train de se libérer tout en pointant toutes les résistances qu'elle rencontre. Alors, dans Aline Ali, André Léo dénonce l'idéologie sexiste qui règle les discours sur les femmes. C'est le pendant romanesque de La femme et les mœurs qu'elle publie à la même époque. Et elle y dénonce, dans La femme et les mœurs, toutes les analyses produites sur les femmes qui sont basées sur des idées fausses. Elle dit que ce sont des pures fictions. L'image qu'on nous présente, c'est un pur fantasme, c'est une création qui n'a rien à voir avec les femmes réellement existantes, création issue des cerveaux masculins. Et André Léo va opposer à ces créations sa propre créature, hein, c'est les mots qu'elle emploie, en imaginant une fable, Aline Ali, qui vient s'opposer tout aux fictions qui modèlent les représentations qu'on a du réel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise dans ce roman l'idée du travestissement. Aline, le personnage, va se travestir en homme pour mieux observer la société de son temps et pour pouvoir agir au même titre que les hommes, sans être entravée par sa condition de femme. C'est grâce à ce travestissement que le personnage peut démystifier la fiction d'une société prétendument égalitaire. Ça montre bien que les femmes, hors de l'histoire, ne peuvent intervenir dans les affaires de la cité que par effraction. Tout ce que dit Aline en tant que femme, c'est une parole inaudible. Et le roman met en scène cette effraction. L'héroïne qui ne peut pas se faire entendre en disant « je » ne peut parler qu'en usurpant une identité, ce qui met bien à nu la tragique condition des femmes. Alors tout commence lorsque Aline décide d'en demander trop à la vie. Elle va s'employer pour lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors d'abord, elle repousse son prétendant qui veut un chef pour la famille, qui prétend avoir une femme esclave chez lui. Et en se travestissant, elle va essayer de déjà nous montrer l'hypocrisie des hommes, l'intérieur du monde masculin. Autre chose qui est intéressante dans ce roman, c'est que parce qu'elle est femme, elle prend le parti de tous les opprimés. Ainsi, elle tente de donner à voir à Paolo, son ami qu'elle rencontre, l'analogie entre le peuple et les femmes. Donc là, je cite un peu longuement le texte. Quand j'étais enfant, j'entendais souvent parler des défauts et des vices du peuple, et ce mot représentait pour moi un être particulier, d'essence abjecte et brutale, qu'il m'eût paru alors impossible d'aimer. Plus tard seulement, j'ai compris que le nom de peuple désigne non une espèce ni même une race, mais une condition, celle de l'homme soumis aux influences particulières du travail manuel, de la misère, de l'ignorance. Donc on voit bien ici qu'être femme, pour elle, ce n'est pas une assignation biologique, mais une condition comparable à celle du peuple. La classe des femmes devient ainsi l'équivalent du prolétariat, et Aline rejoint à ce moment-là l'idée de Suzanne, sa sœur au début de roman, qui affirmait la nécessité de la lutte des sexes. On trouve donc dans Aline Ali une mise à jour des mécanismes du pouvoir. C'était déjà présent dans ses premiers romans, hein, on trouvait une critique matérialiste du pouvoir dans Les deux filles de Monsieur Plichon. On trouvait la critique du mariage du point de vue économique. André Léo dénonçait déjà le fait que les femmes dépourvues de tout accès aux ressources avaient pour seul capital leur corps et se retrouvaient du coup en monnayant ce capital en position de dominer. Un autre thème qui est toujours présent et qu'elle poursuit dans Alinali, c'est le piège de la séduction, justement, puisque dans la galanterie, la femme se retrouve effectivement en position à la fois d'idole, mais position inférieure. Donc ça, on retrouvait ça dans Un divorce, et puis dans Alinali, trouve le stratagème justement du travestissement pour échapper à ces faux hommages, à cette galanterie qui empêche justement la véritable amitié, la fraternité entre deux individus. Donc en se travestissant, on peut dire qu'elle réalise l'utopie de l'abolition de la différence des sexes. Hein, en endossant un costume d'homme, elle performe le rôle masculin, elle prouve par son action que les différences entre les hommes et les femmes ne tiennent que grâce à une idéologie qui est complètement construite. C'est pourquoi dans la postface du roman là, qu'on a réédité avec Alice Primi et Cecilia Beach, j'ai parlé de façon complètement anachronique et humoristique évidemment, d'un roman queer. Je dis voilà, c'est un des premiers romans queer de l'histoire, puisque Aline Alice se travestit, c'est un drag king avant la lettre, quoi. Alors pour conclure, donc j'ai voulu montrer en fait que qu'André Léo a à la fois partagé énormément donc avec la démarche des écrivains anarchistes de son époque, tout en tenant une place à part grâce à son féminisme qui est quand même unique dans ce mouvement-là. C'est quand même assez rare. Et même si on voit une évolution dans son féminisme, en fait, il y a quand même une profonde cohérence quand on regarde les thèmes qu'elle développe depuis ses premiers romans jusqu'à... Là, je me suis arrêtée à Alinali. Alors, deux thèmes qui reviennent sans arrêt, c'est premièrement le regard critique du narrateur. Chez André Léo, le narrateur est constamment ironique. Dans Un divorce, elle se livre à un roman sentimental et en même temps à la déconstruction de ce roman à travers la bouche de Mathilde, qui critique sans arrêt le mythe de l'amour idéal et qui montre bien comment ça fait des ravages à travers, dans la destinée des femmes. Elle adopte aussi une écriture, comme beaucoup d'écrivains anarchistes, une écriture polyphonique pour déconstruire les lieux communs, en sollicitant chez le public à chaque fois une lecture critique. Le recours à l'utopie chez elle, ce n'est pas une fuite hors du réel, mais un moyen pour s'écarter de ce qui est familier et mettre à jour l'idéologie dominante. Au sens où Kropotkin disait dans La conquête du pain, écrire une utopie communaliste, ce n'était pas une rêverie sans rapport avec la réalité, mais un projet de société déjà en gestation dans la société actuelle. Donc tous ces romans... En plus de cet aspect critique, ont cet aspect utopique. Alors c'est davantage, plutôt qu'une véritable utopie, on peut parler, comme le disait Pessin, qu'est-ce qu'il disait Pessin, d'imaginaire utopique, c'est plus large si vous voulez, un changement de regard, quoi. Les terres utopiques où André Léo veut nous emmener, c'est quoi? Le domaine où règnent l'égalité et la liberté. Je finis sur une belle citation de Edith qui disait « Nous voulons créer nous-mêmes ce que nous rêvons, une autre patrie où l'on pourrait aimer sans s'avilir. » Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les personnages d'André Léo tentent donc chacun d'innover en créant leur voie propre, mais ce n'est pas du tout uniquement une utopie personnelle, individuelle, réduite à la sphère privée, puisque chaque couple d'amants veut aussi... participer à une œuvre sociale, alors ça peut être affranchir les serres, créer une école pour le peuple, etc. Donc elle démontre en fait dans ses romans que le privé est politique aussi. Je cite aussi un très beau passage à la fin de Un divorce où Étienne attend, je cite, ou le fils qu'Anna va lui donner, ou l'appel de la sainte cause en quelques lieux du monde. L'amour ici n'apparaît pas comme un idéal, mais comme un moyen pour s'élever à l'idéal. Donc on voit bien comment, je finirai là-dessus. D'une manière assez unique pour l'époque, l'anarchisme et le féminisme nourrissent également l'œuvre d'André Léo. Son engagement libertaire la pousse à critiquer sans cesse les abus d'autorité d'où qu'ils viennent, et son engagement féministe l'entraîne à chercher l'égalité au sein même du couple. Et finalement, je voudrais citer, pour terminer, cette dénonciation en forme de slogan que j'ai trouvée dans l'article de Cecilia Beach sur Marianne, la pièce de théâtre. Donc cette citation de Marianne... Exploitation partout, mensonge toujours, amour nulle part. Voilà.
Bien, merci beaucoup d'avoir presque respecté le temps qui vous est imparti. Je crois que vraiment avec ces deux communications, on est au cœur de l'œuvre d'André Léo, hein, véritablement. Et finalement, vos deux communications répondent à ce qui était une des problématiques de cette journée, à savoir les multiples facettes d'André Léo, la complexité de sa trajectoire, et puis les difficultés à lui coller une étiquette. Puisque finalement, est-elle libertaire, est-elle anarchiste, est-elle socialiste, est-elle républicaine, tout ça, évidemment, est beaucoup plus compliqué que ça ne paraît au premier abord. Donc, ces quelques mots, tout simplement, pour introduire notre débat. Je crois qu'on a à peu près respecté notre temps. Donc, on a, je pense, un bon quart d'heure pour pouvoir discuter tous ensemble. Et puis ensuite, il y aura certainement un quart d'heure de pause bien salutaire pour tout le monde. Donc, j'invite peut-être Nicole Pellegrin à nous rejoindre à la tribune. Et j'ouvre donc nos débats pour des questions à nos deux intervenantes de cette première séquence consacrée aux influences d'André Léo. Alors, Frédéric Chauveau.
Donc, trois questions. Une question pour chaque intervenante et puis une question aux communes, si je puis dire. Donc, la première question, c'était pour Nicole Pellegrin, mais c'était juste sur un petit point un peu plus... précis, donc il n'y a peut-être pas de réponse, mais c'était l'origine de l'expression, donc la terreur tricolore, puisqu'on le trouve aussi sous la plume de Benoît Malon, et du coup c'est une expression qui est relativement importante, puisque c'est la première fois qu'on qualifie donc l'épisode de la Commune sanglante et puis des quelques semaines qui suivent. Et donc du coup, est-ce qu'on peut attribuer la paternité, si je puis dire, à quelqu'un? Voilà, ça c'est pas du tout une question piège, hein, c'est parce
non,
que
mais
bon.
Je réponds tout de suite, je sais pas.
Bon, eh ben alors, c'est sérieux.
Alors,
deuxième question, c'était par rapport à l'activité plus romanesque d'André Léo. Est-ce que finalement, c'était peut-être pas aussi les choix qu'elle a faits, c'était pas des choix qui étaient plus difficiles de prendre des romans, si je puis dire, de scènes un petit peu plus banales? Parce que si je prends par exemple Malato, quand il publie son roman sur la grève... Bon, là, évidemment, c'est plus facile de faire intervenir des personnages qui font la propagande ou qui se font en quelque sorte les propagandistes d'idées sociales ou de rénovation de la société. Alors que là, avec André Léo, bon, je ne connais pas évidemment l'ensemble de son œuvre romanesque, mais on a l'impression aussi qu'elle a choisi d'une certaine façon la difficulté de prendre des situations peut-être plus ordinaires pour pouvoir après donc changer le cadre et faire agir. Et puis... La troisième question, qui est la question plus transversale, il y a un historien, donc Jean-Claude Caron, qui a fait paraître il n'y a pas très longtemps donc, un essai qui a eu un certain écho, qui s'appelle « Frère de sang ». Donc c'est un essai sur le discours sur la guerre civile. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, de faire un ouvrage un petit peu semblable qui s'appellerait, par exemple, « Sœur de sang » ?
Peut-être Caroline Granier pour commencer, puis ensuite pour la dernière question, l'une ou l'autre.
Alors je ne sais pas si elle a choisi sciemment la difficulté ou pas. Moi j'ai l'impression aussi que c'est peut-être quelque part, elle se coule dans un genre, comme faisaient beaucoup des écrivains anarchistes qui choisissaient par exemple des genres très populaires pour diffuser les idées au maximum. Donc le roman feuilleton, qui à l'époque était souvent investi par les écrivains réactionnaires, et eux en font justement un vecteur des idées révolutionnaires. Là, j'ai l'impression qu'elle se sert du roman sentimental, hein, un roman, des fois ça peut paraître, ça commence comme les romans assez mièvres, deux héros qui se cherchent, vont-ils vaincre les préjugés et pouvoir s'aimer. Donc une forme très banale et a priori pas très intéressante d'un point de vue idéologique, et elle arrive justement à le subvertir, en y glissant les idées extrêmement radicales et révolutionnaires. Et ça aussi, c'est typique des écrivains anarchistes. Donc, quelque part, Malato fait ça avec le roman feuilleton, hein, parce que La Grande Grève, c'est un roman feuilleton, c'est des aventures rocambolesques, incroyables, mais en même temps, voilà, avec le récit d'une grève. Et donc, elle fait quelque part la même chose avec le roman sentimental. Elle prend la forme d'un roman, comme on en a lu des milliers, mais avec dedans des idées complètement révolutionnaires sur l'émancipation des femmes. Donc en fait, c'est pas si dissemblable, il me semble, chacun dans leur domaine a un petit peu la même démarche, quoi. J'ai l'impression.
Sur l'ouvrage de Jean-Claude Caron, peut-être, les Sœurs de sang.
Je sais pas. Vous l'avez lu ?
Non, moi je...
Bien, donc nous allons passer...
Un des avantages de ces rencontres, hein, c'est de nous obliger à retravailler davantage et à lire bien davantage aussi.
Voilà, donc parmi la liste qui a été évoquée pour la pause pédagogique d'octobre, il y a également l'ouvrage de Jean-Claude Caron. Voilà. Autre question. Nathalie Brément.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait, vos deux interventions se suivent. L'époque où André Léo a vécu correspond, par rapport à l'histoire de l'anarchisme, à une époque très très importante. C'est la période la plus importante du mouvement anarchiste, c'est l'âge d'or. Mais en fait, ce mouvement, il a été traversé par des grandes questions, et en particulier autour de la question du changement social, c'est-à-dire que dans les années 70-80, l'idée, c'était de faire la révolution très violente, par la propagande, par le fait, et ensuite, on est passé à des idées sur le changement social beaucoup plus réformatrices et liées à l'évolution. Par exemple, justement, Élisée Reclus, qui défendait la révolution, a ensuite parlé d'évolution. Et je trouve que c'est intéressant ce que vous avez dit à la fin, de savoir qu'André Léo n'utilisait plus le terme révolution, mais évolution à la fin de sa vie. Et en fait, si je parle de ça, c'est que je voudrais savoir si dans son œuvre littéraire, on voit des références à la problématique de l'insurrection. On peut trouver des choses là-dessus. Si elle s'exprime sur... parce que vous dites qu'elle est proche des libertaires, mais en fait, à aucun moment, vous avez abordé cette question, parce que c'est une question centrale à l'époque, la question du changement social. Comment on change la société? Est-ce qu'on la change violemment, ou par des réalisations, ou par l'éducation, ou par l'évolution?
Faudrait demander à Cécilia, qui connaît mieux l'ensemble de l'œuvre littéraire, parce que là, moi, je me suis surtout penchée sur les premiers romans. On voit très peu d'allusions. C'est toujours des allusions, c'est en fond, en arrière-plan, les allusions à 48, souvent comme un changement extraordinaire. Mais en arrière-plan, on a l'impression qu'elle se concentre vraiment dans les romans sur l'évolution des mœurs, sur la transformation des mentalités. On a pas mal dans... je crois que c'est peut-être... dans les romans postérieurs aussi, de description du monde du travail, des ouvriers, des grèves, des l'évolution des rapports de force, quoi. Mais voilà, toi, tu peux mieux répondre que moi, je pense. Bon, peut-être qu'on en reparle.
On a l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que dans son parcours, enfin, me semble-t-il, il y a quand même un éloignement, justement, des courants anarchistes à partir des années 72-73. On voit quand même des prises de position beaucoup plus... Parce que vous évoquiez le terme de réformiste pour la commune de Malampie. C'est vrai qu'on n'est pas du tout là sur une révolution violente ou insurrectionnelle.
Oui, mais tous les anarchistes n'étaient pas du tout sur cette position-là. Oui, oui, il y a tellement de courants au sein de l'anarchisme que je pense qu'elle a totalement sa place, même en étant opposée à la violence. La distinction entre anarchisme et libertaire ne se justifie pas au XIXe siècle. En fait, le mot libertaire est inventé pour contourner un petit peu les lois qui, à partir des attentats violents de la fin du siècle, il y a des lois répressives envers les anarchistes. Donc on utilise parfois le terme libertaire pour contourner, faire moins peur, mais en gros, il n'y a pas de différence pour moi. Donc après, est-ce que c'est abusif de l'englober dans les libertaires? Moi, j'ai trouvé que tout ce que je lis, que ce soit dans ses essais ou dans ses romans, pour moi, est libertaire. Pour moi, elle est proche d'Élisée Reclus, elle a des idées qui ne se distinguent pas, elle a côtoyé Bakounine, même sa dispute avec Bakounine.
Une rupture avec Bakounine.
Oui, mais non pas, à la limite, je trouve que dans ses discussions avec Bakounine, elle est plus anarchiste que lui. Enfin, il est sectaire et elle le traite de sectaire, non? Pour moi, le fait qu'il y ait des discussions avec les... Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'elle ne lui reproche pas d'être... les dissensions entre eux, c'est pas parce qu'elle refuse ses idées anarchistes. Tu peux en dire plus, peut-être. Précise. Mais j'ai pas l'impression... le courant anarchiste est fait d'énormément de disputes, de rencontres, de scissions, effectivement, même à cette époque-là. Il y a les individualistes, il y a les communistes... pour moi, j'ai inclus, si vous voulez, on pourrait dire socialiste anti-autoritaire, si ça vous gêne le mot anarchiste. J'ai l'impression qu'elle fait partie de ce courant avec un fond d'aspiration à l'égalité, à la liberté et le rejet de tout ce qui est autoritarisme, sectarisme, etc. Donc pour moi, c'est ça l'anarchisme. Voilà, même si elle doit se distinguer de tel ou tel dans le détail, mais il y avait quand même énormément de discussions à l'époque et tout le monde n'était pas partisan de la bombe et de la violence aussi.
Non, mais je disais ça juste parce qu'à un moment, ça a été majoritaire, à un moment. à un moment très court, mais ça l'a été quand même. C'était juste pour savoir comment elle s'était positionnée. Voilà.
Bah ça, je sais pas exactement. Moi,
Après, si je dis qu'on ne peut pas comparer André Léo et Bakounine, parce que Bakounine, ce n'était pas seulement ces références-là, c'est aussi un programme. L'anarchisme, c'est quand même tout un tas de choses très précises.
Oui, mais ce qui me
il
semblait.
A théorisé
c'est...
quand même. Oui,
je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire,
Je comprends très bien.
En critiquant Bakounine, elle ne critiquait pas un positionnement anarchiste. C'était
de toute façon, je crois que c'était un odieux personnage.
Je
ne
sais pas, je n'ai pas réussi à. Enfin, moi, je suis tombée sur aucun texte où elle rejette, où elle critique. Les idées anarchistes, voilà. J'ai pas l'impression. Après, c'est évident, je l'ai dit au départ, voilà, qu'elle jamais elle s'est déclarée, elle s'est collée une étiquette, hein, donc c'est peut-être un petit peu abusif de ma part, mais voilà, j'ai vraiment, quand j'ai travaillé sur ces écrivains anarchistes, j'ai trouvé qu'elle avait sa part parce qu'elle faisait vraiment partie de cette mouvance. Tant par l'endroit où elle se trouve, les journaux dans lesquels elle écrit, les gens qu'elle côtoie, hein, c'est ça, les affinités aussi. Et puis l'action qu'elle mène, le genre de révolution qu'elle défend, et toutes ces idées qui apparaissent dans ses romans. J'ai trouvé qu'on pouvait l'inclure dans cette mouvance-là. Tous les écrivains dont je parle, évidemment, ont tous aussi leur singularité. Chacun se distingue d'une façon ou d'une autre, puisque justement, ce n'est pas un parti, ce n'est pas une idéologie à laquelle il serait inféodé. C'est ça aussi la richesse de l'anarchisme, et peut-être aussi la difficulté pour nous à appréhender et à cerner un mouvement comme ça.
Je peux rajouter peut-être une petite anecdote. Dans la commune de Malampis, ceux qui ne l'ont pas lu, la révolution se fait, alors guillemets à révolution, par les femmes à coups de balai. Il ne s'agit jamais pour les femmes d'avoir des armes.
Ah, ça peut être symbolique aussi, ça peut être une sorte de métaphore.
Il y a plein de femmes qui à ce moment-là demandent le droit à...
Il a été écrit en quelle année ce livre-là, la commune
74.
Ah. Oui.
Donc c'est évident, c'est vraiment filigrane la Commune de Paris qui guide ce livre-là.
Enfin, alors, par contre, la référence à la démocratie directe, on peut dire que ça, c'est typiquement anarchiste pour le coup.
Ah oui, aucun représentant, le contrôle continu des mandatés, enfin il y a vraiment des choses. Là, c'est pour ça que j'ai dit, même si le système n'est pas complètement économiquement révolutionnaire, la désignation, la prise en main des habitants, c'est anarchiste. Enfin, il n'y a pas plus... Oui.
On a juste le temps pour une ou deux dernières questions. Alors, monsieur.
Non, c'est juste une toute petite remarque par rapport à la personnalité, au personnage d'André Léo, et par rapport au paragraphe que vous avez dit sur sa recherche de l'égalité. Vous avez donné trois aspects. Le premier, c'était entre sexes. Ensuite, entre couches sociales, toujours dans le premier rang. Et également au niveau de l'âge. Et là, on retrouve sa liaison avec Malon. C'est aussi bien une différence d'âge, c'est elle qui est la plus ancienne, et d'éducation, c'est elle qui est la plus éduquée. Et ça fait un rapport inhabituel. Deuxièmement, vous avez parlé des amitiés improbables, de l'égalité au niveau des sexes. C'est sa signature. André Léo, deux masculins, au point qu'on la trouve dans certains dictionnaires à la lettre L. C'est rigolo. Et le troisièmement que vous avez dit, c'était au niveau de l'abri de la séduction. Là, on pense à Louise Michel tout de suite. C'est tout.
Merci.
Il y a une question. Je voulais vous poser une question. J'ai trouvé très intéressante vos mises en exergue des oppositions entre 89, 93 et tout ça. Mais maintenant, je voudrais que vous approfondissiez un petit peu, brièvement bien sûr, l'idée de l'évolution, s'il vous plaît.
Alors, tout le monde a compris que je suis néophyte, que j'ai fait une lecture précise, que je n'ai pas lu la totalité des œuvres d'André Léo, et notamment les œuvres de la dernière période. Donc, il faut que je creuse cette idée. Mais je trouve que le martèlement, la récurrence de certains mots dans certains textes, quel que soit l'auteur, est une espèce de manière commode d'entrer dans la pensée, l'idéologie de l'auteur. Et dans le cas d'André Léo, cet approfondissement de la notion d'évolution opposée à celle de révolution dans Coupon le câble méritait attention pour ce texte-là et allait m'obliger à lire les textes qui précédaient et que je n'ai pas encore lu. Donc, il y a là un phénomène très intéressant. Mais, comme le disait Caroline il y a un instant, c'est vrai qu'il est très important de reprendre très précisément son vocabulaire, parce que ça permet de saisir son originalité, qui est infiniment plus grande que je ne l'imaginais il y a quelque temps. Et c'est vrai que c'est une libertaire, si on prend ce terme au sens large, mais elle est inféodée nulle part. C'est ça, sa force pour nous aujourd'hui. Et à mon avis, mais c'est une question, sa faiblesse en son temps. Elle est marginale. Voilà. Je n'ai pas répondu.
Excusez-moi, m'intéressant à l'histoire des sciences, justement, je me posais la question de savoir comment elle se positionnait dans l'époque. Parce que, bon, c'était une femme de lettres, mais c'était une période aussi où les lettres et la science étaient complètement imbriquées. Oui. Donc, c'était intéressant de savoir quelles étaient ses influences et ses rapports aussi avec le monde scientifique, qui était bien entendu un monde particulièrement masculin. Mais elle avait l'air quand même d'être une femme d'actualité au sens où on peut le penser aujourd'hui.
Oui. Alors là, elle est copine avec Clémence Royer, qui est donc la traductrice Darwin et qui elle-même est très liée à toute une série de milieux scientifiques. Et Anne, je ne sais pas répondre précisément à votre question, d'autres sauront le faire, mais si je me réfère à ma dernière lecture, qui est celle de la commune de Malampie, l'instituteur retourneur qui remplace l'instituteur qui doit s'appeler les bonus et qui inflige aux gamins au temps de la monarchie que l'histoire de l'Antiquité grecque et romaine. Il est remplacé, cet instituteur, bon, par le retourneur Jean Novel, donc nouveauté. Et si je me souviens bien, ma voisine saura me corriger, il est dit que cette histoire obsolète sera remplacée par l'histoire des découvertes scientifiques et celle des grandes figures de philanthropes ou de défenseurs de l'humanité. Donc, il n'y a, à ma connaissance, jamais explicitement de discours sur les sciences, mais elle est de celles, effectivement, voilà. Qui... Alors, si tous ses travaux, tout ce qu'elle écrit sur l'éducation, il s'agit de faire une éducation expérimentale, et le mot d'expérimental, surtout dans le contexte de l'époque, est à prendre à tous les sens de ce mot. Donc, elle est dans cette mouvance-là, sans qu'il y ait explicitement de référence, là aussi, aux travaux de Pasteur ou de je ne sais qui d'autre. Voilà. Merci. Je ne peux pas répondre plus.
Bah, juste pour vous répondre en un mot là-dessus, d'abord, c'est dans son dernier roman, La famille au droit, donc, qui est paru en 1899. Donc c'est la mère de famille qui instruit ses enfants avec des pédagogies nouvelles, etc., expérimentales. Et entre autres, donc il n'y a évidemment aucune éducation religieuse, mais il y a la paléontologie et donc les découvertes vraiment de ce temps-là qui sont déjà communiquées et expliquées même pour les enfants par André Léo dans ce roman. Oui, c'était juste une autre...
Et l'agronomie, je vous coupe.
Oui, c'est vrai, l'agronomie a eu...
Elle est agromaniaque.
Et je crois que j'ai coupé la parole à une question au fond, mais c'était juste pour... rajouter quelque chose à la question qui venait de, je ne sais plus, toujours sur la question de la violence. Et oui, évolution, révolution, parce que justement dans Alinali, ça me revient maintenant un peu tardivement, il y a justement l'opposition entre Paolo, donc le compagnon d'Aline, qui part faire la révolution en Italie à ce moment-là, donc c'est dans les années 50, hein, c'est vraiment très inscrit dans l'histoire du moment, et Aline qui, elle, va opter pour faire évoluer par l'éducation, par la réforme sociale, etc. Et les deux modèles qui sont en parallèle, mais avec l'échec de la révolution italienne à ce moment-là aussi, donc qui laisse penser que la révolution ne peut qu'échouer.
Alors, peut-être une toute dernière question. Quelqu'un avait levé la main, mais alors très courte.
Oui, mais la violence n'est pas condamnée. Hein. Il n'y avait jamais aucune condamnation de l'action de Paolo, quand même. Sur l'efficacité, oui, mais pas d'un point de vue éthique. Quoi.
Alors moi j'avais une question peut-être un peu naïve, mais puisqu'on est dans les influences, j'aurais aimé savoir un petit peu l'impact et la diffusion des écrits d'André Léo et savoir si elle avait eu un impact sur toute la société ou si c'était resté dans un cadre très militant ou si finalement elle était restée assez marginale.
Alors mesdames.
Je vais dire que c'est à la fin de la journée qu'on pourra répondre à votre question.
Mais
peu d'influence.
Voilà, on va en parler dans la deuxième partie.
Bah écoutez, je crois que oui, nous allons. La qualité des questions et le nombre de questions montrent tout l'intérêt que vous portez à André Léo, donc tant mieux. Je vous propose de souffler quelques minutes. Alors, mettons, il est 11h10, on a 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, et nous reprenons nos débats à 11h20 pour tenir notre timing. Merci.